Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ce matin dans le cadre de notre série « Le Dieu que tu ne connais pas » à un message très spécial, un message pour toi, pour chacun d'entre vous ici, en personne, à Nouvelle-Vie à Longueuil, mais également pour toi en ligne, de l'autre côté de ton écran. Le message de Dieu pour chaque personne qui ont été blessées par l'Église. Nous avons tous été horrifiés par le drame et la tragédie des pensionnats. La réalité, la réalisation dans ces dernières années ici au Québec de plus de 150 000 enfants des communautés autochtones qui ont été arrachés sur une trentaine de périodes, une trentaine d'années, arrachés à leur famille pour déraciner de leur culture, pour être mis dans des pensionnats religieux. Plus de 5 000 enfants morts. On a découvert avec horreur les fosses communes près des pensionnats où les enfants et les parents n'ont jamais eu de nouvelles d'aucun de leurs enfants. C'est une plaie béante, une tache sur notre nation. C'est un traumatisme pour des multitudes qui ont perdu toute attache. C'est un traumatisme qui perdure et marque profondément de génération en génération. Mais cette blessure aux mains de l'Église, malheureusement, n'est pas limitée à ces milliers de familles des communautés autochtones. Il y a des centaines de milliers de Québécois, de Québécoises, qu'on a appelés de différents noms, des enfants de Duplessis ou d'autres noms, qui ont subi des sévices, qui ont été blessés au nom de l'Église et par des représentants de l'Église, par des hommes, par des femmes qui représentaient l'Église, l'Église chrétienne. Il y a plusieurs années, dans les débuts de l'Église Nouvelle Vie, j'ai reçu un appel, je ne le nommerai pas, mais d'un haut magistrat de notre ville. Et c'était son assistante qui disait, un pasteur aimerait vous rencontrer, dîner avec vous. Et c'était surprenant parce que ce haut magistrat, pendant plusieurs années, était anti-Église, était loin. On n'était pas capable d'avoir aucun contact avec lui. Il avait même, à travers certains canaux, on avait entendu à quel point il était anti-Église. Et là, il demandait à me rencontrer. Et c'était après la crise du verglas où on a accueilli la ville entière pendant des semaines comme un centre d'accueil pour la ville. Et alors que je me suis assis à la table avec son assistante et lui dans le restaurant, après à peu près 20-25 minutes où on parlait de tout et de rien, son assistante, qui est une femme qu'on aimait beaucoup, mais qui est une femme de tête, avait dit directement, elle a dit, « Écoute là, il est là le révérend, il est là le pasteur, arrête de parler de tout et de rien, dis-y là, parle-lui. » Et elle dit, elle s'est levée, elle dit, vas-y, parle-lui. Et tout à coup, à un moment d'hésitation, mais ce haut magistrat, ce politicien, a ouvert son cœur. Il m'a raconté qu'ici même, dans notre ville, lorsqu'il était enfant, très, très grandissant dans une maison avec une extrême pauvreté, et sa mère a eu, et le papa, et de la violence dans la maison, alcoolisme et violence dans la maison, et la maman a eu des enfants, a eu des jumeaux. Elle a fait un post-mortem extrêmement difficile. Elle tombait dans des dépressions qui étaient cycliques et très, très, très lourdes. Et le curé entrait, venait à la maison et disait, tu n'as pas le droit de, tu vas aller dans les limbes, Dieu va être contre toi, tu vas te faire juger si tu arrêtes la famille. Tu n'as pas le droit d'arrêter la famille, il faut que tu continues. Et elle a eu comme 9 ou 10 enfants et perdu des enfants pendant cette période-là et de grossesse en grossesse en est venue à faire des psychoses, à être internée en psychiatrie pendant que la maison était complètement bouleversée. Et ce monsieur-là grandit là-dedans pour apprendre plus tard, lorsqu'il a commencé sa carrière politique dans notre ville, pour apprendre plus tard que ce prêtre-là en question était aussi un prêtre pédophile. Et lorsque j'ai quitté, il m'a dit, c'est pour ça que j'étais comme ça envers les églises, c'est pour ça que j'étais comme ça. Quand je voyais une croix, ça me faisait frémir de colère. Il m'avait posé cette question, est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre genre d'église chrétienne? Et ce monsieur-là représente des millions de personnes qui ont été blessées par l'Église. Mais il ne faut surtout pas penser, prétendre ou se leurrer à se conter des histoires que le leadership, un type de leadership qui est toxique, qui a abusé, a été fait par des leaders qui ont blessé des gens et que c'était que ce type d'horreur-là n'existe pas dans l'Église chrétienne évangélique. Oui, il y a une gradation de différents degrés d'offense et de blessure. Et oui, je veux le dire, il y a des milliers et des milliers de leaders, de pasteurs et d'églises qui servent le Seigneur avec intégrité, avec droiture, avec amour et qui servent bien les gens. Mais il y a des multitudes qui ont été blessées par l'Église. Avez-vous déjà réfléchi, vous remarquez qu'on peut être déçu dans toutes sortes de sphères de la vie, mais il y a quelque chose de particulier qui fait particulièrement mal lorsque nous sommes blessés ou trahis par quelqu'un qui se dit représentant Dieu. Et le roi David a écrit dans le psaume 55 et les versets 13 à 15, « Ce n'est pas un étranger qui m'a blessé profondément. » Ça n'a pas été quelqu'un qui est un ennemi de ma foi, qui m'a déçu et fait du mal. Ça, je le supporterais. Mais c'était toi, mon confident, mon ami. Ensemble, nous avions une vraie relation. J'avais confiance. Nous allions ensemble avec toute la foule dans la maison de Dieu. Dans ce psaume témoignage écrit par David, l'homme selon le cœur de Dieu, David était un homme qui avait connu toutes les guerres, toutes les attaques, avait été attaqué de l'extérieur, avait été sujet de diffamation et de calomnie par des voix extérieures. Mais il témoigne ici que ce sont les déceptions, blessures et trahisons de l'intérieur. C'était toi, mon ami, j'avais confiance en toi. Nous allions ensemble à la maison de Dieu, que c'est celle-là qui nous blesse le plus profondément. Et moi, avec 40 ans de ministère, j'étais dans 51 pays du monde, j'ai vu cette réalité. Pensez-y un instant, là, on peut être déçu lorsque nous voyons des carences ou des contradictions dans des gens qu'on aimait, qu'on respectait à l'extérieur, que ce soit dans nos familles, que ce soit autour, dans le monde politique, j'avais confiance en lui ou en elle, le monde médiatique, artistique. Un leader, un patron, une personnalité ou quelqu'un qu'on admirait qui nous déçoit. Mais lorsque nous découvrons que c'est quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, qui est chrétien, qui représente Dieu, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose qui vient nous décevoir et blesser profondément. Il y a plusieurs niveaux et degrés d'offense et de blessure que nous pouvons vivre dans l'Église, mais elles ont tout un impact. Des plus petites ou des plus justes relationnelles aux abus terribles, il y a toujours un impact des conséquences émotionnelles, relationnelles et spirituelles. À cause des blessures, nous pouvons, des gens blessés peuvent devenir, et toi qui me regardes en ligne, t'es peut-être devenu cynique, t'es devenu moqueur, t'es devenu amer envers les églises. Et les gens amers qui s'éloignent de l'église trouvent toujours d'autres gens amers et ils alimentent leur amertume ensemble. Il y a d'autres conséquences qui sont terribles. Cynisme, amertume, un jugement, une méfiance, la perte de la capacité de faire confiance à nouveau. Des blessures où plusieurs ont arrêté de servir Dieu, ont mis fin à leur rêve de marcher pour Dieu, de donner, de se donner, même de venir à l'Église, d'être à l'Église. Et à cause de cela, l'Évangile, le message, la bonne nouvelle de Dieu se perd. Et il y a des deuxièmes et troisièmes générations où dans le foyer, l'Évangile a disparu. L'ennemi a réussi à voler la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout ce que Dieu a apporté à quelqu'un, à une famille, à cause de quelqu'un en chemin qui a été offensé. C'est un sujet et c'est une dynamique tellement, c'est une réalité tellement profonde. Et ce matin, je vais apporter un message, et tous les pasteurs des sites le font aussi, mais on a voulu ajouter, on veut développer tout ce que tu as besoin, te donner des outils pour guérir. Alors, je vais vous annoncer aujourd'hui que nous vous offrons gratuitement un webinaire gratuit en deux parties. Le premier aura lieu le samedi 29 octobre, le second samedi 5 novembre, deux samedis matin de 10 à 11. Vous allez voir les heures correspondantes pour tous ceux qui nous regardent en Europe. Et là, dans ce webinaire gratuit, nous parlerons le plus honnêtement possible de la réalité des offenses faites par l'Église et de leurs effets néfastes, des caractéristiques d'un leadership toxique, mais aussi c'est quoi un leadership sain, qui est en santé, des caractéristiques d'un chemin qui mène à la guérison parce qu'il y a de l'espoir et des promesses pour tous ceux et celles qui ont été blessés. Il va y avoir des témoignages, des entrevues, des conversations franches et authentiques sur le sujet. Et pour participer au webinaire, vous n'avez qu'à vous inscrire sur nouvellevie.com/agenda. Nous allons vous aider à guérir. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant? Et tous ceux qui l'ont vécu, vous avez besoin d'encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais entendre une main d'applaudissement pour dire oui, il est possible de guérir. Ce ce matin, le message de Dieu pour chaque personne. Qu'est-ce que Dieu dit à chaque personne qui a été blessée par son Église? Quel est le message de Dieu? Contrairement à une grande portion du leadership chrétien et des chrétiens, Dieu reconnaît. La première pensée, c'est que Dieu reconnaît et il appelle à la repentance. Dieu reconnaît que des gens ont été blessés par des chrétiens et par son Église. Dieu reconnaît et il appelle ceux qui ont blessé à la repentance. C'est une des pires fautes et représentations mensongères de Dieu par des leaders et par des églises, par des chrétiens, le déni, la justification, la rationalisation, l'orgueil cruel de ne pas reconnaître que tu as blessé des gens, de ne pas reconnaître les blessures qu'ont causées l'Église. Écoute-moi bien ce matin, le Dieu que tu ne connais pas n'est pas comme ça. Dieu ne nie pas la réalité des blessures que tu as subies aux mains de son Église, de son peuple. C'est une des plus grandes causes, je crois que c'est une des plus grandes causes de gens qui se sont éloignés de Dieu et de génération en génération, d'athéisme même, dans le monde, a été les chrétiens qui se proclament leur appartenance à Dieu, mais ils le renient par leurs actions. Et souvent, leurs comportements, leurs attitudes, et font un mal terrible de génération en génération sans jamais reconnaître le tort qu'ils ont causé. Ce que Dieu, si tu veux savoir ce que Dieu dit à chaque personne qui a été blessée, il faut que tu écoutes le Seigneur Jésus lui-même. Ah, il est toujours l'expression parfaite du cœur du Père. Et Jésus nous rappelle que Dieu reconnaît et il appelle à la repentance ceux qui ont blessé. Dans Matthieu chapitre 23 et au verset 13, il s'adresse à des leaders religieux. Les scribes et les pharisiens étaient ceux qui dirigeaient les leaders religieux qui avaient blessé le peuple. Et il leur dit ceci, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » C'est littéralement qu'il y a des leaders qui ont tellement blessé qu'ils deviennent un obstacle qui empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais quelque chose d'important aussi, c'est qu'il dit « vous n'y entrez pas vous-même ». Sache que ce n'est pas à toi de juger, ce n'est pas à moi de juger, mais chaque leader chrétien va répondre pour ce qu'il a fait, va répondre pour comment il a représenté Dieu. Mais littéralement, si ce matin tu as été blessé, confus, déçu, désillusionné par des chrétiens, par des leaders d'église, surtout ne pense jamais une seconde que Jésus nie ou que Jésus minimise ou cherche à cacher l'importance ou la gravité de ta blessure. Dieu reconnaît et il appelle ceux qui ont fait du mal à la repentance. Dans Matthieu 23, nous retrouvons ce que les théologiens appellent les sept malheurs à vous, the seven woes. Sept fois, Jésus va dire « malheur à vous » à des leaders. « Malheur à vous » que Jésus qui confronte frontalement et directement ses leaders religieux. C'est avec eux que Jésus a été le plus sévère. Vous lisez les évangiles et c'est avec des leaders qui ont fait du mal, qui représentaient Dieu, avec lesquels Jésus a été le plus sévère. Il reconnaît, il dénonce, il confronte et même il nomme, il les décrit dans des caractéristiques, dans des patterns qui sont encore réels aujourd'hui. Il va dire par exemple dans Matthieu 23, « Ils disent, mais ils ne font pas. » Ils disent, ils ne font pas. Ils sont en contradiction. Il y a des contradictions, on en voit tous les jours. Il y a des contradictions dans le monde séculier, mais même des contradictions qui peuvent te faire sourire. J'ai vu une image cette semaine, quelqu'un m'a envoyé une image, c'est vraiment réel, d'un gym, un endroit d'entraînement, un gym aux États-Unis qui a seulement 4 marches, mais il y a un escalier mobile pour monter. Contradiction. Et rendu en haut, il y a une bannière, c'était vrai, c'était marqué, « Venez vous joindre à nous pour Pizza Friday. » Vendredi, pizza et escalateur pour aller au gym. Dites à quelqu'un près de vous, il est en contradiction. Il y a des contradictions. Lorsque je vois, je ne veux pas m'acharner, mais lorsque je vois un des hommes qui sont des jeunes hommes, des participants à Occupation Double, qui dit cette semaine, et je sais, je n'écoute pas Occupation Double, c'était dans un article de journal, qui dit cette semaine, et c'est comme ça qu'il parle à son ami, « Hey, le gros, hey, gros! » Moi, là, je suis pas du tout, j'aime pas ça être vu. Moi, là, j'aime ça être en arrière de la scène. J'aime pas être vu. Moi, gros, cherche l'authentique. Hé, gros, t'es en occupation double, l'endroit le moins authentique sur la Terre. Il y a des contradictions à tous les jours, mais il y a des contradictions qui sont lorsqu'elles sont profondes dans le monde chrétien, lorsqu'elles sont dans l'Église, qui viennent blesser profondément. Lorsque l'Église annonce l'amour, mais qu'à l'intérieur, elle est remplie de colère, de cliques et d'amertume et de favoritisme. Lorsque le leadership qui prêche et prône le sacrifice et la générosité vit lui-même dans une abondance dégueulasse et dans une opulence sur le dos des gens qui envoient leurs dons, il y aura un jugement sévère devant Dieu. C'est une contradiction qui blesse, qui fait mal. Lorsque nous découvrons qu'ils font en secret ce qu'ils dénonçaient publiquement. Lorsque dans quelle que soit la sphère de la vie, lorsqu'ils annoncent le pardon, mais ne le pratiquent pas, lorsqu'il y a cette contradiction, il y a une blessure profonde. Jésus dit, c'est Dieu reconnaît les gens, la blessure que les gens peuvent vivre par des leaders et par des chrétiens qui disent et ne font pas. Ils mettent des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. C'est dans Matthieu 23. Ils mettent des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. Ils mettent des fardeaux de culpabilité, de légalisme, de condamnation, de menace. Je vous donne un exemple très, très, très concret. Ça arrive malheureusement dans le monde évangélique continuellement où est-ce que tu peux avoir une famille ou quelqu'un qui a servi dans une église pendant de nombreuses années et se sent, quelles que soient les raisons, se sent une direction de quitter une église pour aller vers une autre. Et à partir du moment où ils quittent, où ils sont en route pour s'en aller, on met des jougs sur eux. Tu es un traître, tu as abandonné, tu t'en vas sous le jugement, tu sors de sous la protection de Dieu et l'église t'a quitté. Et maintenant, tout le monde a compris le message qu'on n'a plus le droit de leur parler. Jésus dit à hypocritesse, il dit à ces leaders, vous mettez des fardeaux sur les gens et vous les blessez. C'est vous, ces leaders et ces chrétiens qui font des actes religieux pour être vus des hommes. Matthieu 23, verset 5, actes religieux pour être vus des hommes. Jésus a dit, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu donnes, quand tu loues, quand tu adores, tu ne le fais pas pour être vu des hommes, tu le fais devant ton Dieu. C'est devant Dieu que tu le fais. Et lorsque Dieu va choisir un leader pour Israël, il dira cette phrase tellement importante alors qu'il y a tous ces candidats en apparence, ayant tellement à offrir extérieurement, mais Dieu dit non, ce n'est pas eux, c'est lui, parce que Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, voulez-vous dire amen? Ces leaders qui aiment les premières places blessent. Matthieu 23, 5, des leaders qui abusent de chrétiens pour des faveurs, pour des services, pour du positionnement, pour être traités comme des rois, comme des dictateurs. Lorsque le concept de l'homme ou de la femme de Dieu devient une immunité où le leader n'a jamais à être redevable pour ses conduites méprisables, ce n'est plus le cœur de Dieu. Jésus dira même, vous êtes des hypocritesses. Hypocrites. Le mot est 17 fois trouvé dans le Nouveau Testament. Ça veut dire celui qui joue un rôle, qui est faux. Celui qui cache et qui dissimule. Jésus a été le premier à utiliser le mot « hypocritesse » dans un contexte religieux, dans un contexte de leadership religieux, parce que c'était un mot de théâtre. Le mot était très connu, c'était un mot de théâtre. Ça représentait un acteur de cinéma, le masque. Les hypocritesses portaient, les acteurs, des masques pour jouer un rôle, pour prétendre être ce qu'ils ne sont pas et cacher qui ils sont vraiment. Et Jésus appelle à la repentance, à tous ceux qui ont blessé en portant leur masque, en prétendant être ce qu'ils ne sont pas dans l'Église. Attention! Le langage utilisé par Jésus peut offenser certains hypocritesses qui s'ignorent. Matthieu 23, verset 23-27. C'est ça que vous devriez pratiquer, pas seulement parler, pratiquer, dans la fidélité, la compassion, la vérité. Vous nettoyez le dehors de la coupe, alors qu'en dedans, vous êtes plein de saleté. C'est Jésus qui parle. Nettoie premièrement l'intérieur pour que l'extérieur devienne net. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors, mais qui en dedans sont pleins d'ossements et de morts et d'impuretés. Repentez-vous et pratiquez la vraie justice. C'est le message de Dieu à tous ceux qui ont blessé des gens dans l'Église. Et c'est notre message aussi, et je le dis à chacun d'entre nous, repens-toi si tu as blessé, sonde ton cœur, présente-toi devant Dieu aujourd'hui, est-ce que j'ai blessé Seigneur, repens-toi parce que tu vas te présenter devant lui un jour, malheur à celui qui sera une occasion de chute pour un de mes enfants, repens-toi parce que tu rendras compte à Dieu, tu seras encore jugé plus sévèrement si tu communiques, si tu prêches, si tu es un leader, c'est ce que la parole enseigne, repens-toi et cherche à réparer, cherche à changer, repens-toi et pour certaines personnes, repens-toi et retire-toi, tu blesses le corps de Christ et tu fais honte au nom de Dieu. Notre appel jusqu'à son retour, c'est non de marcher dans un cœur de repentance en disant je demande pardon si j'ai blessé. Je veux reconnaître comment j'ai blessé. Je veux savoir comment je peux arrêter de blesser. Et c'est aussi pour chacun d'entre nous à présenter Dieu à nouveau, à restaurer la nature et l'essence même de l'Église auprès de ceux qui ont été blessés. Dieu reconnaît, il appelle à la repentance ceux qui ont blessé et il nous appelle à nous donner à cette mission de donner une nouvelle représentation de qui est Dieu, de qui est son Église, à nous repentir, à chercher passionnément, corporativement ensemble, mais personnellement, individuellement, à tout faire pour ne pas blesser, à restaurer l'imagio Dei, l'image de Dieu qui a été souillée dans le cœur de tellement de personnes. L'appel de Dieu est pour nous d'être tellement une représentation de qui il est que nous rendons Dieu reconnaissable à nouveau pour ceux qui ne le connaissent pas. Ésaïe, chapitre 58, Dieu dit ceci, versets 4, 9, 12 et 13. Lorsque vous répétez tous vos rituels religieux et que vous jeûnez en faisant du mal aux gens et en les traitant avec dureté, Dieu dit, je ne prends aucun plaisir en vous. Mais si tu éloignes de toi les jougs que tu as mis sur le peuple, le doigt pointé et le discours qui diminue et détruit, et si tu honores l'Éternel en mettant fin à tes vains discours que tu ne pratiques pas toi-même, alors les tiens pourront être rebâtis. Tu relèveras ce qui avait été mis en ruine depuis longtemps. On t'appellera celui qui répare les brèches et qui restaure les chemins vers Dieu. Nouvelle vie, écoutez-moi aujourd'hui, je vous appelle ce matin. Dieu nous appelle. Voici notre appel, notre responsabilité. Nous allons comme jamais éloigner de nous le joug et au contraire être un endroit où les gens sont libres et reçoivent le pardon, la grâce et le non-jugement de Dieu. Nous allons refuser toutes sortes de formes de doigts pointés et qui dénigrent ou qui abaissent. Nous allons honorer Dieu en aimant en action et non en paroles vides. Nous allons rebâtir, nous allons relever des vies, des relations avec Dieu qui avaient été mis en ruine. Nous allons réparer et restaurer le chemin pour que celui qui a été blessé puisse revenir à Dieu. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir cette mission. Dieu reconnaît, il appelle à la repentance. Est-ce que vous connaissez Bernard Pivot? Bernard Pivot, les Français le connaissent. Bernard Pivot, c'est une sommité en France, a animé des émissions de télévision pendant 30-40 ans. Il a des émissions de lecture, de philosophie. C'est lui qui était l'auteur de la célèbre dictée de Bernard Pivot. Une des dictées, c'était un test de français à chaque année. Le monde en est plein de francophones qui ont pris cette dictée absolument terrifiante. Mais Pivot avait aussi ce qu'il appelle le célèbre questionnaire de Bernard Pivot. Il a rencontré toutes les grandes personnalités politiques, les présidents, les premiers ministres de France, des artistes, il a rencontré des philosophes. Il leur faisait toujours un questionnaire avec la même série de questions pour tout le monde. Et c'est intéressant parce que sa dernière question était toujours « Qu'est-ce que vous espérez que Dieu va vous dire lorsque vous arrivez à l'arrivée à la porte du paradis? » Mais une des questions qu'il posait souvent aux gens, c'était « Quel est le son que vous détestez et quel est le son que... » Vous aimez. Le son que vous aimez, le son que vous détestez. Posez la question à plein de monde. Alors, lorsqu'il posait la question, quel est le son que vous aimez? Les gens répondaient, regardaient certaines des réponses. Le rire d'un enfant, la musique, une rivière qui coule, les vagues de la mer, le chant des oiseaux. Et combien d'entre vous connaissez des gens que le son qu'ils aiment, c'est le son de leur propre voix? Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Regardez personne, regardez-moi moi là en ce moment. Le son que vous aimez, je demandé aux gens, c'est quoi le son que vous détestez? Et moi, j'ai suggéré la tondeuse de mon voisin le samedi matin. Le réveil matin à 5h15 par un matin glacial d'hiver au Québec, dites aïeul tout le monde ensemble. Hey, il y en a qui ont répondu le son de la guerre. Il y a un homme, philosophe juif, qui a répondu la voix, le son que je déteste, la voix de Hitler. Il y a quelqu'un qui a dit ça, on peut tous dire oui. Je déteste le son des sanglots de quelqu'un que j'aime. Mais avez-vous déjà pensé au son que Dieu déteste? Dieu déteste le son des hypocritesses. Il déteste le son de l'Église légaliste qui juge et qui abaisse. Il déteste le son de l'Église qui parle et qui ne fait rien. Dieu déteste les discours sans action. Il déteste le son de l'injustice, de la manipulation et de l'orgueil religieux qui refuse de reconnaître le mal qu'il a fait. Est-ce que vous connaissez le son que Dieu aime? Il aime le son d'une Église assez humble pour dire « Je vous demande pardon », assez humble pour dire « Seigneur, change-moi ». Il aime le son d'une Église qui annonce la grâce, qui annonce la justice, qui aime en action. Il aime le son d'une Église qui reçoit sa mission de le représenter sur cette terre. Est-ce qu'on peut remplir ce lieu? Va applaudir avec moi et remplir ce lieu de ce son. Quel est le message de Dieu à celui ou celle qui a été blessé? Dieu reconnaît, c'est vrai, du mal qui a été fait. Et ce matin, comme représentant, comme pasteur, même pour le mal qui n'a rien à voir avec nous, avec moi ou avec Nouvelle Vie, je demande pardon. Je te demande pardon pour le mal que l'Église chrétienne t'a fait. Je le reconnais. Et je prie avec repentance, Seigneur, change-nous, transforme-nous, rends-nous toujours plus comme toi. Nous ne voulons blesser personne. Tu reconnais et il appelle à la repentance. La deuxième chose que Dieu fait, il nous aide à réaliser pourquoi. Pourquoi il arrive que des chrétiens blessent. Dieu nous aide à réaliser pourquoi des chrétiens peuvent agir de façon à décevoir, faire des erreurs qui blessent. Attention! Ce n'est d'aucune façon une justification ou des excuses afin de minimiser la réalité et la gravité des blessures. Ce n'est pas ça. Mais Dieu nous aide à répondre à des questions qu'on s'est souvent posées. Tout le monde s'est posé à un moment donné, comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible que des chrétiens agissent comme ça? Comment est-ce que c'est possible qu'une église puisse faire autant de mal? Comment est-ce que pourquoi des gens qui sont chrétiens peuvent agir si mal? Dieu nous donne quelques pistes. Il dit, c'est parce que certains prétendent être chrétiens, mais ils ne le sont pas. Dans Tite 1,16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Certains se nomment, se déclarent chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils se proclament comme étant chrétiens, mais ils ne possèdent pas le salut. Ils annoncent, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils ont une religiosité, mais il n'y a pas de relation. Parfois, c'est une tradition qui est familiale, mais il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de foi. Ils ont une culture chrétienne, mais il n'y a pas eu de conversion du cœur. Aller à l'Église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Une culture ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Aimer la musique, aimer du worship ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Connaître des versets ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Croire en Dieu ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Accepter le sacrifice de Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, mort sur la croix pour mes fautes et mes péchés que je reçois par la foi personnellement et marcher dans ses traces et chercher à lui plaire et à te transformer à son image, fais de toi un chrétien. Pourquoi certains religieux évangéliques font-ils des choses complètement contraires à Jésus et blessent tellement profondément? Pourquoi certaines personnes qui vont à l'Église et commettent de tels actes et ont des paroles et attitudes qui blessent tellement de gens? Parce que pour certains d'entre eux, ils ne sont pas chrétiens. Ça n'excuse pas leurs actions, mais il faut que tu comprennes, ils ne sont pas chrétiens. Ils peuvent agir, ils ne sont pas chrétiens. Oui, mais Pasteur Claude, tu devrais voir tous les miracles qu'ils annoncent en ligne, toutes les grandes choses qu'ils disent. Jésus, à ce moment où il dit dans l'Évangile de Matthieu, où il dit, ils viendront vers moi dans les temps de la fin. À la fin de toutes choses, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades. En ton nom, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Jésus a dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous allez les connaître à leurs fruits, pas à leur tatouage chrétien, pas à la croix dans le cou, pas à leur culture gospel, ou pas parce qu'ils déclarent des grandes choses en ligne, parce qu'ils ont un fruit, le fruit de Christ dans leur vie. Oui, mais Pasteur Claude, ils croient en Dieu. Le frère de Jésus, Jacques, dans Jacques chapitre 2, dit, « Tu crois en un Dieu seul, tu fais bien les démons aussi. » Les démons croient et ils tremblent. Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres, montre-moi tes fruits, car il en est ainsi de la foi. Sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Non seulement des gens qui sont dans l'Église, mais qui ne sont pas ni nouveaux, ne sont pas chrétiens et ils blessent. La parole de Dieu enseigne aussi qu'il va y avoir une étape plus loin, il va y avoir des loups ravisseurs. Il va y avoir des gens qui vont être du milieu de nous et qui sont là pour faire du mal, qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont en fait des outils dans la main de celui qui veut détruire la foi. De l'ennemi lui-même, dans Actes 20, 28 à 30, l'apôtre Paul donne son dernier message à Éphèse. C'est là où il a passé le plus de temps. Il a déversé toute sa vie en eux. Il est avec les anciens. C'est un moment solennel. Il va se terminer à genoux, en larmes, en prière, les uns pour les autres. Il leur dit, dans Actes 20, 28, 30, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi pour paître l'Église du Seigneur. Il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. » Information de dernière heure, news flash pour toi, les loups ravisseurs existent encore. Qui viennent du milieu pour déchirer, pour critiquer, pour amener les gens dans toutes sortes de choses, pour blesser, pour faire du mal. Certains prétendent, pourquoi est-ce que des gens, des chrétiens, semblent pouvoir blesser ainsi? Parce que certains prétendent être chrétiens, mais ne sont pas. Et l'autre chose importante, c'est aussi, deuxième pensée, c'est que certains sont chrétiens, mais ils ne sont pas matures. Ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont nés de nouveau, mais ne sont pas matures dans leur foi. Ils agissent de façon, ils parlent de façon, parfois qui blessent des gens. Dans Hébreux 5, 11 à 14, des références apparaissent à l'écran. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des modèles. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des principes de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide, comme un bébé, comme un enfant. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est maintenant développé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'Église n'est pas un musée de gens parfaits, c'est un hôpital de gens pardonnés. On serait très nombreux, ça c'est des milliers, mais moi je voudrais à chaque dimanche que lorsque vous entrez ici, vous mettez un dossard sur vous qui dit « Attention, ralentissez, soyez patient, travaux en cours. » Dites à la personne près de vous, toi aussi à la maison, dites à la personne près de vous, « Dieu n'a pas fini de travailler sur moi. » Dites ça à quelqu'un près de vous. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui excuse, mais tu peux comprendre qu'il y a une immaturité. L'apôtre Paul dit, il y en a qui sont des enfants, sont comme des bébés dans la foi. Ils sont chrétiens, mais ils ont seulement commencé dans leur développement spirituel. Ils sont au lait spirituellement. Ils sont au lait spirituellement. Ils sont dans l'enfance de la foi, du discernement et des bonnes décisions entre le bien et le mal selon la parole de Dieu. Ils boivent du lait, ils pleurent fort, ils font tout fort, ils font caca dans leur couche et ça sent pas bon. C'est des bébés dans la foi. Ils apprennent à marcher et en le faisant, ils renversent plein de trucs précieux. C'est des bébés, c'est des enfants. Et arrêtez-vous un instant, même pas dans votre marche chrétienne, arrêtez-vous une seconde à penser et répondez à cette question. Avez-vous déjà fait des folies ou stupidités lorsque vous étiez ado, lorsque vous étiez immature? Moi, je regarde dans ma vie, ma mère, lorsqu'elle était vivante, racontait des choses que j'avais faites. J'avais honte, j'étais tellement gêné des femmes. Comment j'ai pu faire? Regardez-moi pas comme ça, vous aussi. Comment j'ai pu dire quelque chose de stupide? Comment j'ai pu faire quelque chose comme ça? Combien d'entre vous, dans les premiers fois, premiers pas, premières années de votre immaturité, dans votre foi, avez fait des choses qui ont pu blesser des gens? Crier oui! Il y en a 8 qui l'admettent. Les autres, vous avez besoin. Les autres, malheur à vous, pharisiens, car vous... Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, alors j'ai 17 ans, j'ai né de nouveau, et j'étais un petit bum qui avait fait toutes les misères à ma mère possibles. J'ai fait souffrir ma mère, j'ai blessé tout le monde, j'ai fait du mal à tout le monde. J'étais tellement mauvais fils, mauvais tout. Ma mère remplie d'amour à tout le temps, et ma mère n'était pas du tout croyante, mais une femme de compassion. C'est d'elle que j'ai reçu les premières semences de compassion. Elle accueillait tout le monde, toujours généreuse, jamais de jugement pour personne, toujours des gens qui dormaient chez nous. Elle aidait tout le monde, elle donnait ce qu'elle n'avait pas, etc., etc. Et moi, j'accepte le Seigneur. Alors, j'ai 17 ans, j'entends une prédication, et la première fois que j'ai témoigné à ma mère, je suis arrivé dans la maison. Je dis, maman, tu sais, toutes tes belles œuvres, là, tes belles affaires que tu fais, là, ça, c'est des guenilles souillées. Quoi? Elle est en train de me faire un spaghetti. Quoi? Ésaïe, chapitre 1. Toutes vos œuvres, des guenilles souillées. Quoi? Maman, elle ne se choquait jamais contre moi quand j'ai fait les péchés. Ce jour-là, elle m'a mis dehors. Elle a dit, toi, mon petit, mon petit effronté, sors de ma maison. Dites à voix haute avec moi, immature. Dites-le plus fort que ça, immature. C'est une raison pour laquelle les gens peuvent nous blesser. Ils sont immatures. Je vais même dire ceci. Une raison pour laquelle certaines personnes sont blessées si longtemps puis s'offensent à rien, c'est que vous êtes immature. Vous êtes immature non seulement pour blesser, mais vous êtes immature dans votre capacité à rebondir. Puis là, je ne parle pas d'abus graves, mais des gens qui ont quitté l'Église parce que je ne leur ai pas dit bonjour dans le couloir quand je les ai croisés. Alors, il y a une dimension d'immaturité. Connaissez-vous le principe spirituel du périph' parisien? Oups, parce que Claude, tu viens de nous perdre, là. Non, le périph' parisien. Les premières, ça fait 30 ans, 40 ans que je vais prêcher en France. La première fois que j'étais invité en France, j'ai reçu une invitation d'un pasteur. Nous sommes en région, nous sommes sur une église sur Paris. Waouh, je m'en vais à Paris. Et tout le monde me disait, chanceux, tu t'en vas à Paris. Pasteur Stéphane me comprend. J'arrive à l'aéroport, on est dans les autoroutes, pas de Tour Eiffel, pas de Champs-Élysées, pas d'Arc de Triomphe. J'arrive dans une petite place, j'arrive dans une église avec un long couloir, des chaises en plastique orange. Je passe 5 jours là. Je retourne à l'aéroport, je m'en retourne chez nous et qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'étais à Paris. Non, j'étais en périph'. J'étais dans le périph' de Paris. Il y a des gars que ça leur prenait 2 heures pour se rendre au centre-ville, mais ils étaient encore à Paris, en périph'. Dans le périph', il était proche de, en contact avec, peut-être qu'il est allé une fois visiter la Tour Eiffel, s'est mis en ligne pour monter en haut, mais il n'était pas dans Paris. Et il y a plein de gens qui sont en contact avec Jésus, sont dans le périph' de Jésus, sont touristes de Jésus, mais ne sont pas encore ancrés en Jésus. Ils sont immatures dans leur foi. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu es à Paris, lorsque tu es en Jésus, il va y avoir une sensibilité et une sagesse. Quelqu'un devrait dire « Amen » et applaudir avec moi. Mais pourquoi est-ce que des gens peuvent nous blesser? Parce que certains ne sont pas chrétiens, certains sont immatures, mais aussi parce que certains sont chrétiens, sont matures, mais la tentation et l'ennemi est bien réel. Ils aiment Dieu, ils sont sincères, mais il y a un combat qui est continuel. L'apôtre Pierre, qui savait un peu sur ce sujet-là, parce qu'il aimait Jésus passionnément, avait marché avec lui 3 ans, avait été appelé à tellement de grandes choses, mais s'est retrouvé dans des moments où il a renié, où il a blasphémé, où il a pleuré amèrement, puis c'est la grâce de Dieu qui l'a ramené, avertira vers la fin de sa vie, écrira 1 Pierre 5, 6 à 9, « Venez avec humilité sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, sois alerte. » Il y a un combat qui prend place. C'est jamais fini. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères sont dans le monde, à vos frères qui sont dans le monde. Pourquoi est-ce que des chrétiens, même établis, que nous admirions, peuvent nous blesser? Parce qu'ils sont humains. Parce que le combat ne finit pas. Parce qu'ils peuvent avoir eu une saison où ils ont baissé leur garde et ont arrêté de chercher la main toute puissante de Dieu. Peut-être qu'ils ont arrêté à travers leurs épreuves et des blessures et se décharger sur lui de leurs soucis et leur fardeau. Peut-être qu'ils ont ouvert une brèche dans leur vie secrète. Et l'ennemi qui rôde, qui attend année après année avec des pièges qui sont faits pour chaque saison et chaque personne est venue. Ils ont été dévorés. Ils ont besoin de la restauration de Dieu. Lorsque nous voyons des hommes et des femmes qui ont été des voix extraordinaires dans le monde entier, tu les vois dans un moment où ils nous déçoivent et ils nous blessent par leur chute. Il y a quelque chose dont on doit se souvenir. C'est que toi et moi qui sommes chrétiens et qui cherchons à le servir de tous nos cœurs ne sont pas infaillibles. Et le Matthieu 23, avec les sept fois où Jésus dit « Malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi », savez-vous comment ça se termine? Il avertit vraiment les hypocrites. Il avertit vraiment ceux qui ont blessé. Tu as besoin de te repentir. Savez-vous comment le chapitre se termine? Se termine au verset 37, aux mêmes personnes qui ont fait du mal, puis qui ont chuté eux-mêmes et qui ont causé d'autres. Jésus pleura sur Jérusalem et s'écria, c'est la fin du chapitre des sept malheurs à toi. Jérusalem, Jérusalem, qui a tué les prophètes, qui lapide ceux que j'ai envoyés. Combien de fois aurais-je voulu te ramener à moi comme une mère rassemble ses enfants, mais tu n'as pas voulu. C'est là le test ultime. Pour nous qui disons suivre Jésus, il nous appelle tous à nous repentir pour ceux que nous avons blessés, mais il nous appelle tous, par son esprit, par sa grâce, à relâcher et à pardonner ceux qui nous ont blessés. Il termine en offrant sa grâce. Encore une fois, ce n'est pas une excuse ou une licence pour faire le mal, pour pécher, au nom de la grâce, pour se déresponsabiliser. Non. Mais des chrétiens sincères peuvent être tentés, tomber, vous décevoir, et ils ne sont pas tous des hypocritesses. Ils sont humains. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Je vais vous donner une prophétie qui est certaine et absolument garantie de s'accomplir. Dans votre vie chrétienne, vous allez être blessé. Et dans votre vie chrétienne, vous allez blesser d'autres, sans le vouloir. Pasteur Claude, pourquoi tu as intitulé le message au « Je ». J'ai été blessé par l'Église. Parce que j'ai été blessé par l'Église. J'ai été blessé en 360 degrés, moi, dans ma vie, dans mes décennies avec Dieu. J'ai été blessé en 360 degrés, dans toutes les sphères relationnelles. J'ai été blessé et déçu profondément par des pères dans la foi, avec qui j'avais mis plein de confiance et qui m'ont blessé, que j'ai eu à trouver le chemin de la restauration et du pardon pour continuer. J'ai été blessé avec des frères et des sœurs. Des personnes avec qui étaient à côté de moi, des amis, je m'en marchais ensemble, servais ensemble. Et j'ai été blessé par des fils et des filles spirituelles à lesquels je m'étais déversé. Savez-vous, l'autre aspect, c'est que dans ces 40 ans, je ne sais même pas comment, et c'est à chaque jour, ça a certainement été jamais mon désir, toujours l'inverse que j'aurais voulu, mais j'ai blessé des pères, moi. J'ai blessé des frères. J'ai blessé des fils et des filles qui ont besoin qui ont eu besoin de me pardonner. Le problème est souvent que lorsque je fais des erreurs et qui blessent des gens, lorsqu'on le fait, on a tendance à blâmer les circonstances. Tu sais que c'est pas vraiment mon cœur, puis je suis sous pression, puis je suis fatigué, puis t'arrives ici, puis mais tu sais que c'est pas grave. Mais lorsque quelqu'un d'autre nous blesse ou nous déçoit, on a tendance à attaquer leur caractère. T'es un hypocritesse. Si je vous ai marché sur les orteils en ce moment, le prochain 2 minutes va être juste une coche de plus. Alors, cachez vos pieds en dessous des chaises en ce moment parce que je m'en viens vous marcher sur les orteils. Parce que Dieu, non seulement le message de Dieu, non seulement qu'il reconnaît et appelle à la repentance, qu'il nous aide à réaliser pourquoi les chrétiens font des erreurs, tombent dans des pièges et qu'ils se déçoivent eux-mêmes, déçoivent d'autres et peuvent même blesser par leurs manquements et contradictions parce qu'ils sont humains. Mais Dieu nous ramène à lui et redirige nos pas vers le chemin de la restauration. Dieu ne minimise pas la gravité du péché et des blessures. Mais Dieu veut manifester la grandeur de son pardon pour guérir toutes les blessures. Dieu dit quelque chose de tellement puissant dans le psaume 103. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Le psalmiste dit... Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Combien sont reconnaissants pour ça et disent « Merci Seigneur ». Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande et sans limite pour ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait que nous sommes, de quoi nous sommes formés. Il sait, il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de l'Éternel dure toujours à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Amen. Comprenez bien, si je vous ai blessé ou que l'Église Nouvelle Vie vous a blessé, nous vous demandons pardon et nous consacrons à tout faire pour ne jamais blesser. Mais je veux aussi vous dire ceci, nous ne sommes que poussière. La poussière dans la parole de Dieu parle de l'humanité. On va retourner à la poussière. Je ne suis qu'un sac de poussière. Il sait de quoi nous sommes formés. Je ne suis qu'un sac de poussière. Je sais que c'est pas une personne qui dit amen à ça, mais l'Église, c'est le rassemblement de sacs de poussière. De sacs de poussière bien humains, bien complètement faillibles, complètement imparfaits, qui marchent et se tiennent debout seulement par la grâce et le pardon de Dieu. Quelqu'un devrait remercier Dieu pour son pardon. Je veux terminer ce message avec un homme dans la Bible qui est déçu, secoué dans sa foi et blessé par des disciples de Jésus alors qu'il était vulnérable et dans un état de grand besoin. Dans Marc chapitre 9, au verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est tourmenté par un mauvais esprit. Et en quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Jésus leur dit, amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence, il tomba par terre, se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répond-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Quel texte! Il y a un portrait prophétique dans cette rencontre. Beaucoup, beaucoup de gens sont venus aux disciples de Jésus que nous sommes. Se sont rapprochés du rassemblement des croyants avec une attente que nous sommes appelés à faire ce que Jésus fait, à être ce qu'il est, et ont été cruellement déçus. À eux, à toi, Dieu dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il veut te ramener à lui et rediriger nos pas vers le chemin de la restauration. Cet homme, comme des multitudes autour de nous aujourd'hui, vient vers les disciples qui portent son nom, avec son fils qui est si tourmenté. Et il est en droit de s'attendre que les disciples soient comme Jésus. Je ne suis pas en train de dire que nous allons tous avoir la même mesure de puissance et d'autorité que le Fils de Dieu lorsqu'il était sur terre. Mais nous jeûnons, nous prions, nous cherchons à être remplis de la même passion, la même patience, le même amour, la même attention que Jésus. Je veux joindre ma voix à celle de Dieu pour dire à quiconque qui a été blessé, ne t'arrête pas. Ce père est venu avec son fils l'amener à l'église et il a été déçu. Il a été secoué. Ils n'ont pas pu. Ils ont failli. Mais il ne s'est pas arrêté. Ne t'arrête pas aux chrétiens déconnectés. Le début du chapitre 9 de Marc, il y a les disciples qui sont sur le mont de la transfiguration. Et vous le lirez à la maison, il y a de la gloire, il y a la présence de Dieu, il y a le prophétique. Et ils sont tellement bien dans le haut de la montagne, en présence de Jésus, que l'apôtre Pierre dit, « Bâtissons trois autels ici. » Est-ce qu'on peut juste rester ici en haut, complètement déconnecté du fait qu'en bas de la montagne, il y a un homme qui a besoin de guérison? Il y a une église déconnectée qui blesse. Une église qui est dans ses trucs, dans ses affaires. Elle existe encore aujourd'hui. L'église recueillie sur elle-même, la gloire, la présence entre nous, le prophétique dans le haut de la montagne. Et il y a des gens partout autour de nous qui souffrent. L'Esprit de Dieu, Dieu dit à cette église-là, débarque, descends de là. Descends de là, descends. Et moi, je veux dire à quelqu'un qui a été blessé, tu as été en contact avec une église qui est déconnectée, ne t'arrête pas à elle. Marche, continue comme ce père. Jésus, lui, n'est pas déconnecté. Il est là où tu es, là où tu as avec ton besoin. Il est avec toi dans la vallée. Ne t'arrête pas au déconnecté. Ne t'arrête pas au diviseur, une grande foule des scribes qui discutaient et argumentaient avec les disciples. Les scribes traduisaient la Bible, transcrivaient la Bible, argumentait la Bible, se divisait sur la Bible, mais il ne la pratiquait pas. Avez-vous remarqué ce que Jésus a fait? Il leur a demandé lorsqu'il descend de la montagne, de quoi discutez-vous? Sur quoi est-ce que vous vous divisez en ce moment? Sur quoi est-ce que vous discutez? Je vous garantis que Jésus pose la même question à son Église aujourd'hui. Alors qu'il y a tellement de gens en souffrance qui ont besoin de lui autour de nous. La voix de Dieu parle à son Église et dit, de quoi discutez-vous? De quoi êtes-vous en train de discuter? Êtes-vous en train de discuter des sept écoles eschatologiques sur l'Apocalypse? Êtes-vous en train de discuter, de vous diviser sur des fausses doctrines que personne ne comprend? Êtes-vous vraiment, vraiment en train de vous discuter sur le rôle de la femme dans l'Église? Est-ce qu'elle a le droit de prêcher à des hommes, pas à des hommes, dans la réunion, dans l'autre réunion, ici ou en mission? Êtes-vous vraiment en train de vous diviser sur des sujets théologiques de millénaires? Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de Jésus. Ma seule discussion, c'est comment est-ce qu'on peut les atteindre et mieux représenter le Seigneur Jésus. You serious? Et à toi qui as été blessé, je te dis, ne t'arrête pas aux disciples qui t'ont déçu. Ce père a demandé aux disciples, je vous amène mon fils qui est tourmenté. Et vous qui portez le nom de Jésus, je veux simplement que vous soyez comme lui. Il a été amèrement été secoué dans sa foi. Secoué dans sa foi au point, ça m'a amené aux larmes. Secoué dans sa foi au point de douter de la nature de Dieu. Si tu le peux, si tu peux avoir compassion de nous, Oh, mes amis, bien-aimés, pensez avec moi. C'est tellement une grande responsabilité, ça me fait tomber sur mes genoux. Je ne veux pas blesser les gens parce que là, parfois, par nos actions et par les blessures qu'on peut infliger aux gens, nous pouvons en venir à leur cacher le vrai caractère de Dieu, à leur donner la mauvaise image de Dieu, son caractère, sa compassion, sa constance, sa compréhension de leur souffrance. Alors nous venons ensemble, et je dis à chacun qui a été blessé, ne t'arrête pas. Arrête-toi pas à ceux qui critiquent, arrête-toi pas à ceux qui sont déconnectés, à ceux qui divisent, à ceux qui t'ont déçu. Ne t'arrête même pas par ta propre douleur et tes doutes à toi. Il vient pas avec une foi parfaite. Il vient, il dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ne t'arrête pas à ceux qui t'ont déçu. Ne t'arrête pas à tes propres douleurs, tes propres doutes. Lorsque Jésus dit, depuis combien de temps est-ce que cet enfant-là, depuis combien de temps, depuis son enfance, sache que Jésus n'est pas en manque d'informations. Jésus sait toutes choses. Mais tendrement, Jésus veut dire à chacun d'entre nous qu'on a tous un passé. Ce papa-là, avec son fils, c'est une affaire de vie, des années et des années. Et très souvent, lorsqu'on est blessé et offensé, c'est oui qu'on nous a fait du mal, mais c'est aussi qu'on porte des douleurs en nous. On porte des blessures en nous depuis longtemps que seulement Jésus peut guérir, que seulement lui peut restaurer. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas même si tu pensais que des gens autour de toi pensaient que ta foi était morte. Toi-même, tu disais, c'est comme si ma foi est morte. Le dernier verset, et Jésus prit avec l'enfant et il sortit en poussant des cris et en s'agitant avec une grande violence, verset 26. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout, guéri. Je vais terminer en disant, à toi qui as été blessé, si cet homme avait quitté parce qu'il a été déçu par les disciples, il n'aurait jamais expérimenté la réalité que Jésus guérit même au milieu de disciples qui sont imparfaits. Parce que lui, il est parfait. Et je parle à quelqu'un qui se dit, moi, ma foi était comme morte. Ma foi était comme morte. Mais il est le Dieu de la résurrection qui te prend par la main et te dit, viens, je veux que tu tiennes debout avec moi. Je veux que tu tiennes debout avec moi aujourd'hui. Je vais terminer en vous donnant ce témoignage. Je suis 5-7 minutes de plus que je devrais. Mais je pense que c'est un moment d'éternité. Il y a quelques semaines, on a eu un moment à l'église où on était une centaine de leaders qui étaient là, puis on a célébré une femme qu'on appelle Mamie Francine, Francine Denis, qui depuis des années, depuis plus de 25 ans, sert le Seigneur avec nous à Nouvelle Vie. Elle est intendante, étant des bâtiments, de grands événements, une femme extraordinaire. Et j'étais émerveillé d'entendre plusieurs générations qui sont maintenant des pasteurs et qui témoignaient à quel point Mamie Francine les avait inspirés, ce qu'elle nous a communiqué. Puis, Nouvelle Vie ne sera pas une Nouvelle Vie sans des femmes comme elle qui servent dans notre Église. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a un moment, il y a des années, où Mamie Francine et son mari ont vécu une telle déception, un tel déchirement face à une blessure par du leadership dans une Église. Ils ont vu des choses qui étaient tellement horribles, qui ont été des années et des années loin de l'Église. Je me souviens dans les tout débuts de Nouvelle Vie, de ce moment où Réal, son mari, s'est approché pour revenir et risquer s'offrir à Dieu à nouveau, et où Francine est venue pour s'offrir au Seigneur à nouveau. Et je frémis à la pensée de tout ce qui aurait été perdu pour elle, pour son couple, pour ses enfants, pour sa famille, si elle avait laissé l'offense. C'est ton choix ce matin, garder le poison de l'offense ou guérir par le pardon et la puissance que Dieu m'offre. Me retirer avec le mal à l'intérieur ou me rapprocher, revenir et prendre la main du Seigneur qui m'est tendue. Je vous demande un instant, en ligne et en personne, juste de pencher la tête et de fermer les yeux. C'est un moment qui peut tout changer, qui va tout changer. Si tu as été blessé par l'Église, je t'invite à te joindre à ce webinaire dans les prochaines semaines où on va parler cœur à cœur, où on va... Il y a toute une équipe de soins pastoraux qui vont être disponibles, même pour toi en ligne, pour répondre aux questions, pour être là pour vous. Mais ce matin, c'est un moment de décision. Alors, si tu es ici ce matin à Nouvelle Vie, ou en ligne derrière ton écran, mais tu es ici ce matin à Nouvelle Vie et tu dis, Pasteur Claude, j'ai été blessé par l'Église. J'aimerais te demander simplement de lever ta main là où tu es. Wow!
Oh Seigneur, tu connais chaque cœur. Je sais que de l'autre côté de l'écran, il y a des milliers qui lèvent leurs mains et disent « J'ai été blessé par l'Église. » Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons guérir. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie que comme cet homme, si les disciples, ceux qui portent ton nom, nous ont déçus, blessés, trahis, que nous n'arrêterons pas là. Je ne m'arrêterai pas. Je veux aller vers toi. Je veux que tu viennes toucher mon cœur, toucher ma vie. Seulement toi peux guérir. Seulement toi peux restaurer. Je refuse de m'arrêter à l'offense. Je veux accepter ton offre divine de guérison. Seigneur, au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, viens restaurer. Au nom de Jésus, en ligne et en personne, que ton Saint-Esprit vienne faire une œuvre de guérison profonde dans les cœurs et que des centaines d'hommes et de femmes puissent faire ce pas et dire « Je reviens ». Je reviens à Dieu, je reviens à l'Église, je reviens à son peuple, je reviens à mon appel, je reviens à le servir, je reviens. Je veux que moi et ma maison puissent servir l'Éternel. Dans le nom de Jésus et toute l'Église dit un grand « Amen ». Et amen, et amen, et amen. Je vais applaudir le Dieu qui guérit.